l'histoire, investiture hier mardi à Kinshasa de Joseph Kabila en qualité de président de la République démocratique du Congo. À cette occasion, le chef de l'État a entre autres promis d'améliorer le social des Congolais par la mise en place du Conseil économique et social. Il s'est aussi engagé à poursuivre la modernisation du pays et se dit disposé à travailler avec les Congolais et pris de patriotisme pour un Congo émergent. Comment analyser le discours au programme du chef de l'État? Pour en parler, nous recevons comme invité Maître Jean Bouyou, député national de la majorité présidentielle et vice-président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Honorable Jean Bouyou, bonsoir.
Bonsoir.
Madame Angèle Makombo, membre de la plateforme dénommée Force de l'opposition réunie au Congo, Coreco, plateforme qui a soutenu la candidature de Léon Kengo Adondo. Elle est présidente de la Ligue des démocrates congolais. Madame Makombo, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Pierre Virgence, politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Professeur Virgence, bonsoir.
Bonsoir.
Et comme d'habitude, vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas du professeur Ignace Ndala de Colésio Katanga qui dit « J'ai trouvé le discours programme du président très conciliateur, humble et plein de soucis pour le bien-être social. Cependant, je ne pense pas que tout sera fait si l'on ne se soucie pas de l'adaptation et la considération d'un budget réaliste et conséquent. Sinon, cela n'aurait pour valeur qu'un chapelet de bonnes intentions. En outre, même si la présence des multiples autres importe peu, l'absence camouflée de nos proches amis à cette cérémonie doit nous interpeller pour la diplomatie sincère et efficace que la RDC doit établir. » Nirouof Jatkem de Mbujimayi au Kasaï-Oriental, le discours programme du chef de l'État, c'est du déjà entendu, c'est toujours la même chose, cela ne rassure pas. Tant que le président de la République ne dira pas comment il compte réaliser tout ce qu'il a énuméré, cela ne me convainc pas. À mon avis, le plus important serait de dire au peuple congolais comment il compte mobiliser des ressources dans un pays qui ne produit pas assez, comment bien gérer le peu qui entre dans les trésors publics et comment bloquer l'hémorragie financière, comment il compte instaurer un état de droit alors que l'impunité règne à maître. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le président de la République, Joseph Kabila, a été investi ce mardi par la Cour suprême de justice à la Cité de l'Union africaine, ici à Kinshasa. Dans son discours programme, il a promis notamment d'améliorer le social des Congolais par la mise en place du Conseil économique et social. On écoute le président Joseph Kabila.
Parallèlement au développement des infrastructures, le gouvernement se montrera particulièrement soucieux de la vie sociale du citoyen congolais, avec le concours du Conseil économique et social qui sera bientôt installé. L'accent sera ainsi mis sur la création d'emplois, une politique du logement plus volontariste, l'amélioration de la couverture sanitaire de notre pays en multipliant les hôpitaux généraux de référence et les centres de santé locaux. La poursuite sans relâche de la lutte contre le VIH-SIDA, une meilleure prise en charge des maladies cardiovasculaires et l'amélioration sensible de la desserte en électricité et en eau potable, tant dans les milieux ruraux qu'urbains. Dans un délai raisonnable, l'objectif de l'émergence de notre pays, autant que celui de l'amélioration notable des conditions de vie de nos populations, nous avons besoin d'une économie forte, dynamique, compétitive, moins dépendante d'un seul secteur, autant que des facteurs exogènes et créatrices de beaucoup d'emplois, surtout pour les jeunes. Diversification et réduction de l'extraversion seront donc les référentiels importants de notre politique économique au cours des 5 prochaines années. Une politique qui rejette l'autarcie et refuse pour notre pays les statut de supermarché du monde.
Voilà, c'est un extrait choisi par Kéline Kouté. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Maître Jean Bouyou, juste un mot sur le déroulement global de cette manifestation.
La cérémonie s'est bien déroulée. commencer avec un léger retard dû aux questions de protocole avec les invités. Mais finalement, elle a eu lieu. Il était prévu qu'elle débute à 10h et qu'elle soit clôturée à 12h20. Elle a débuté à 11h et a été clôturée à 13h. Les invités ont pris part au restant des manifestations, le déjeuner. Et dans différents centres de la ville étaient également invités des personnalités pour justement partager cette joie. Sinon, dans le gros, il n'y a pas eu d'incident.
Alors, parmi les convives, un seul président était au rendez-vous, le Zimbabwéen Robert Mugabe. D'autres chefs d'État se sont fait représenter par leurs ministres ou par des ambassadeurs. Il y a cet internaute Arthur Bitoulou qui dit « La faible présence des chefs d'État africains lors de la cérémonie d'investiture n'est-elle pas un mauvais signal par rapport à l'intérêt que devraient susciter les élections dans un des pays les plus vastes en Afrique, à moins que l'investiture du président de la République n'ait coïncidé avec l'agenda très chargé de la quasi-totalité des présidents africains, Maître Mbouyou? »
Il y a eu des délégations, effectivement, mais il n'y a eu qu'un seul président de la République. Bon, ne me demandez pas maintenant d'aller scruter dans les cœurs de ceux qui ne sont pas venus, pourquoi ils ne sont pas venus. Bon, il est évident.
Peut-être un mauvais signal.
Oh, mauvais signal, je ne crois pas. De toute façon, le président est élu pour servir la République démocratique du Congo, pas pour servir les autres États. Je crois que c'est ce qu'on peut dire. Hein. Sinon, les délégations étaient là, les ambassadeurs représentant les pays étaient là. Et il y a eu une certaine hostilité, sans doute due à ce tapage médiatique en Occident sur cette élection. Mais cela, en fait, ne devrait pas nous bloquer. C'est une question de nous reprendre en main et de continuer la gestion dans la bonne gouvernance.
Alors, revenons au discours programme du président Joseph Kabila. Là, nous l'écoutions sur les aspects socio-économiques. Il promet notamment d'améliorer le social des Congolais par la mise en place du Conseil économique et social. Maître Mbouyou, qu'y a-t-il de nouveau dans ce discours? N'est-ce pas du déjà entendu, comme l'ont dit certains auditeurs?
Non, il y a du nouveau. Il y a le nouveau qui est marqué par la continuité. Ça me rappelle un peu un verset biblique qui dit « Jésus est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement ». Et un prêtre commentant cela me disait « Vérifie un peu dans ta vie si tu as été le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Tant il est difficile d'être le même. Et je crois que c'est cela, le président de la République a réaffirmé la continuation du programme des cinq chantiers, auquel il faut évidemment ajouter des correctifs notamment, ou des compléments, comme la création de ce conseil économique et social, dont justement la mission est de mettre ensemble différentes personnalités et associations du monde du travail et du monde des travailleurs, ainsi que d'autres qu'on peut appeler communément ONG, d'autres personnalités, en vue de proposer et au gouvernement et au Parlement, et au Parlement dans le sens de l'Assemblée nationale et au Sénat, de proposer des voies de règlement des conflits sociaux en vue d'obtenir des meilleurs résultats économiques dans le pays. Donc je crois que ce mécanisme n'a pas existé depuis qu'il a été prévu dans la Constitution du 18 février 2006, mais c'est un mécanisme nécessaire. Nous avons jusqu'ici, dans la mise en place des institutions, les institutions judiciaires qui ne sont pas entièrement mises en place, mais aussi, on oublie souvent, le Conseil économique et social n'a pas non plus encore été mise en place.
Philippe Makomera de Butembo Nord Kivu, le discours du président Kabila n'est pas nouveau. Il a commencé à nous parler du social il y a longtemps. L'eau, l'électricité, l'emploi, le logement, la gratuité de l'enseignement au primaire. Quelle évaluation de tout cela peut-il faire aujourd'hui?
Oui, d'abord, il faut dire que le service en eau et en électricité a été d'abord longtemps durant un service social en ce que ce sont des données naturelles auxquelles il faut accéder. L'électricité et l'énergie est une donnée essentielle dans la ville aujourd'hui. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu dans les évaluations une augmentation dans la desserte de ces services, quoique cette augmentation par rapport au nombre de citoyens, par rapport à l'étendue du pays, n'est pas très ressentie. On a eu quelques endroits comme Kinshasa où il y a eu des difficultés dues à la question de la construction de la deuxième ligne Inga-Kinshasa. Toutefois, des efforts ont été remarqués au courant de cette année de mettre en place de nouvelles, disons, de nouvelles structures, de nouvelles machines qui ont été achetées et implantées en vue d'améliorer tant du côté de l'eau que du côté de l'électricité.
Alors, dans son discours, avant de donner la parole à Madame Makombo, juste un paragraphe. Tout en saluant ces avancées significatives, vous en appelez à une action urgente pour que des retombées positives s'en fassent rapidement sentir sur le chômage, les revenus des ménages, la satisfaction des besoins sociaux de base, la salubrité de nos villes, les conditions de vie dans nos villages et la distribution de la justice, bref, sur le social et le vécu quotidien du Congolais. Ce message a été reçu 5/5, fin de citation, message reçu 5/5, mais le président ne dit pas concrètement comment cela va s'agencer.
Ben écoutez, ce n'est pas dans un discours de politique générale comme ça qui est prévu pour 20-25 minutes qu'on doit tout dire. Il est vrai qu'il y a déjà, dans les 5 années passées, une amorce de ces structures-là. Parce que je voudrais bien insister sur le fait que lorsqu'on parle du social, lorsqu'on parle de l'amélioration des conditions de vie, tout ça, mais c'est par le travail des citoyens. Et donc les mécanismes pour que le travail soit mis en place ont été amorcés. La question des infrastructures routières a commencé par là, nécessaire pour la communication dans le pays. La question de la santé, les hôpitaux construits, les hôpitaux améliorés. La question de l'école comme creuset de la jeunesse future et de ceux qui vont diriger le pays. Eh bien, la question de l'école, les écoles ont été construites, d'autres, y compris par l'intervention de la Banque mondiale, remises en état. Et donc, on ne peut pas dire que tout ce qui a été détruit pendant autant d'années peut être construit en 2-3 ans comme ça. Non, il y a des efforts qui ont commencé et qui se poursuivent. Et je suis certain qu'à la fin de ce mandat, ce ne sera pas fini. Il faudra passer le flambeau à d'autres qui vont continuer cet effort. Donc, mais l'essentiel, c'est que ces efforts sont en cours d'exécution. Nous devons y participer et nous devons chacun apporter sa part de contribution.
Madame Angèle Makombo, vous avez suivi également le discours programme du président Joseph Kabila. Quelle analyse vous en faites exclusivement sur le plan socio-économique?
Disons, je veux bien croire que le président Kabila, comme il a dit, il a reçu 5/5 le besoin social. La demande sociale des Congolais, j'espère bien, parce que je ne peux pas m'empêcher de repenser à son discours d'investiture en 2006. En 2006 déjà, il déplorait le niveau de pauvreté. En 2006 déjà, il avait promis eau et électricité. Et il avait dit, je cite, « la situation socio-économique des Congolais » s'est dégradé de façon incroyable. La majorité des Congolais vit maintenant en dessous du seuil de pauvreté. 5 ans après, la situation est toujours la même, sinon pire. L'emploi dont il parle, c'est la situation est toujours catastrophique. 94% des Congolais ne travaillent pas. On nous avait parlé en 2006 de la fin de la récréation, la fin de l'impunité. Aujourd'hui, on nous dit que pour qu'il y ait du chômage, création d'emplois. On va enfin créer le Conseil économique et social. Je veux bien, c'est une bonne initiative, mais je ne pense pas que seul un Conseil économique et social permettra d'augmenter les emplois au Congo. Si c'était le cas, je pense que beaucoup de pays industrialisés n'auraient pas de chômage ou un taux de chômage très très réduit. Donc je ne peux pas m'empêcher de dire, de penser que vraiment j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci, le sort, la condition sociale des Congolais va s'améliorer parce qu'elle est vraiment dramatique. Nos populations souffrent énormément et moi vraiment c'est une préoccupation de tous les instants et je me dis que j'espère que le président a entendu et que vraiment son engagement à améliorer le social sera réellement réalisé. Et pour cela, il faut faire des efforts au niveau budgétaire. C'est pas normal que le budget de l'éducation soit à peine 2%, santé à peine 2%. C'est pas comme ça qu'on va améliorer la situation des Congolais. et la pauvreté est extrême. Il a parlé aussi d'insalubrité, mais c'est incroyable. Nos villes, en particulier notre capitale, c'est devenu une véritable poubelle. Donc je pense que vraiment il est temps de relever le défi du social. Et c'est bien pour ça que de nombreux Congolais, la majorité d'ailleurs, 50% des Congolais, ont voulu une alternance politique parce qu'ils ne voient pas, ils ne voyaient pas de changement dans leur vie. Et j'espère que maintenant, avec ces promesses qui nous font déjà penser aux promesses de 2006, mais enfin, on donne le bénéfice du doute, j'espère que cette fois, ça sera la bonne et cette fois, les Congolais verront vraiment une amélioration de leurs conditions de vie.
Alors, Madame Angèle Makombo, par-delà le bénéfice du doute que vous accordez au président Kabila, quels sont les véritables défis qui l'attendent pour vous sur le plan socio-économique?
La pauvreté d'abord. La pauvreté, elle devient insoutenable. Elle devient vraiment insoutenable. Quand on dit 75 à 80% des Congolais vivent avec moins de 1 dollar par jour, je pense que c'est beaucoup moins d'un dollar, c'est même moins de 50 cents. Et cette pauvreté ne pourra être réduite que si on s'engage résolument dans une politique de création d'emplois et en favorisant notamment le secteur privé. Et parce que derrière un chômeur, il y a toute une famille, et nos familles sont grandes, toute une famille qui est derrière. Donc c'est absolument ça d'abord. On nous a dit que l'enseignement primaire est gratuit. Mais non, nous voyons, quand nous allons dans nos bases, nous voyons bien les parents peinés. Combien d'enfants ne vont pas à l'école dans ce pays? Nous sommes en train de reculer. Au niveau de la santé, combien de Congolais n'ont plus accès aux soins de santé primaires et se retournent vers la médecine traditionnelle, qui n'est pas une mauvaise médecine, au contraire, mais il y a parfois des problèmes de dosage, etc. Donc, vraiment, je pense qu'il suffit, et je pense qu'il a pu sillonner le territoire, sillonner nos villes, nos provinces, pour voir l'acuité du problème. Extrême pauvreté, les gens n'ont pas de quoi se nourrir, de se vêtir, envoyer les enfants à l'école. Et quand vraiment on est chef de l'État, ça doit être l'une des priorités. Et nous avons négligé des secteurs absolument vitaux, comme l'agriculture. J'espère que il en a parlé aussi. J'espère que cette fois aussi, c'est la bonne. Et quand j'ai entendu Maître Mbouyou dire tout à l'heure, non, des efforts ont été entamés, c'est pas en quelques années qu'on peut réaliser ça, c'est quand même 5 ans déjà. Je voudrais lui rappeler que dans certains pays, le mandat n'est que de 4 ans. Donc en 5 ans, si vraiment on est décidé à faire des choses, améliorer le sort de ses concitoyens, on peut le faire. On peut le faire, mais ça passe aussi par d'autres secteurs dont il a parlé, l'amélioration du secteur des affaires. Et là encore, dans notre pays, nous faisons partie des derniers dans le monde dans ce domaine-là. Donc résolument, engageons-nous dans des réformes et appliquons-les et sachons ce qu'on fait. Et quand les gens qu'on nomme ne font pas le travail comme il faut savoir sanctionner. Comme je vous disais tout à l'heure, en 2006, on nous avait promis la fin de la récréation. Malheureusement, la récréation a continué.
Très brièvement, Madame Akumbo, avant de donner la parole au professeur Virgence, à vous comprendre, on pourrait dire que le président Kabila a cinq nouvelles années pour se rattraper.
Exactement, parce que moi je vois d'abord la priorité des priorités dans un pays, ce sont les populations. Est-ce qu'ils ont de quoi manger? Est-ce qu'ils ont de quoi se vêtir? Est-ce qu'ils ont de quoi se loger? Et il suffit d'un tour, même rapide, de nos villes, de nos provinces, pour voir l'état du désastre, dans quel état vivent nos populations.
Merci.
C'est absolument dramatique. Donc, il faut absolument redresser la situation parce que le peuple juge sur le social d'abord, sur son vécu quotidien.
Merci, Madame Angèle Makombo. Professeur Pierre Virgence, vous êtes politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Professeur, vous avez également suivi le discours programme du président Joseph Kabila. Quelle est votre analyse?
Bien, effectivement, quand on lit ce discours attentivement, on voit que c'est un discours relativement classique, hein, d'entrée en fonction, avec quand même des remarques qui valent la peine d'être relevées, hein, un appel aux compatriotes, même ceux qui n'ont pas voté pour lui, au début du texte, et puis à la fin encore un rappel du fait que le président est à la disposition de tous et qu'il souhaite que tous les compatriotes travaillent ensemble. Donc c'est quand même un discours d'ouverture, hein, c'est quand même sur le plan politique assez classique dans une entrée en fonction, mais dans le climat actuel, évidemment, ce sont des phrases qu'il ne faut pas oublier, hein, d'une certaine manière. Et alors, effectivement, sur le contenu, il y a la description de ce que le président appelle la révolution de la modernité, avec une série d'avancées, dit-il, dans une série de domaines. La question, effectivement, les deux interlocuteurs précédents l'ont fait remarquer, hein, évidemment, on ne serait pas détaillé dans un discours de quelques dizaines de minutes un ensemble de programmes et le détail des moyens d'action. Mais c'est clair que le Conseil économique et social a été prévu dans la Constitution de 2005 et n'avait pas encore été mis sur pied. On ne dit pas non plus comment, par exemple, vont être réglées les questions hospitalières. On parle d'ouverture de moyens de production d'électricité au niveau provincial et interprovincial, et on ne sait pas évidemment d'où viendra l'argent. On parle aussi, et ça c'est intéressant parce que ça n'avait pas été évoqué de façon précise jusque maintenant, d'une part une réforme du secteur foncier en vue de limiter le nombre de conflits. Comment est-ce qu'on va faire ça, la réforme du secteur foncier? Ça voudrait dire que est-ce qu'on ferait un droit uniforme sur le territoire de la République démocratique du Congo avec une perte de pouvoir aux chefs coutumiers, ou à l'inverse justement un retour vers les privilèges locaux? Très intéressant de voir ce que le président entend par là. De la même façon, quand il nous dit qu'il veut inciter les villages à se regrouper de manière à permettre leur modernisation, on ne sait pas évidemment ce qu'il y a derrière ce concept non plus. Alors sur le plan économique, c'est là qu'il y a des remarques intéressantes, notamment la volonté de créer une révision du code minier, et d'autre part l'interdiction progressive de l'exportation des minerais à l'état brut. Ça, c'est la volonté de produire une loi qui interdirait de sortir les minerais bruts du Congo et qui obligerait donc tous les gens qui font de l'extraction de minerais à transformer ces minerais sur le territoire du Congo. Mais le problème qu'on a quand on lit ce texte-là dans la situation actuelle du Congo et vu les moyens dont dispose la République démocratique du Congo à l'heure actuelle, la question qu'on se pose tout de suite, c'est est-ce qu'il sera possible d'installer un système qui obligera effectivement, et pas simplement légalement, les entreprises à transformer les minerais au Congo? Comment est-ce que ça va être possible, puisque le président annonce même qu'il veut faire appliquer le même principe à propos des hydrocarbures? Alors on imagine donc une raffinerie de pétrole quelque part au Congo, mais on ne voit pas non plus quels seraient les moyens concrets pour la République démocratique du Congo d'imposer cela. Et donc là, on voit bien effectivement donc une série de lignes directrices de l'action du gouvernement, avec parfois peut-être certains éléments qui peuvent paraître contradictoires, hein, comme une politique qui rejette l'autarcie, et donc qui rejette l'autarcie, donc qui veut s'ouvrir à l'extérieur, mais qui réduit l'extraversion. Comment est-ce qu'on sort de cette difficulté-là? Si on rejette l'autarcie et qu'on réduit l'extraversion, comment est-ce qu'on va faire? La solution, dit le président, c'est de développer les activités à forte valeur ajoutée. Mais encore faut-il justement qu'il y ait là-dedans des entrepreneurs et des techniciens congolais en masse, capables de s'investir dans ces activités jusque maintenant au Congo ne sont pas les activités les plus profitables.
Professeur Virgence, il y a deux auditeurs, Ndika Kasereka Kasero de Butembo Nord Kivu, qui dit « Comment la RDC sera-t-elle une puissance de la sous-région alors qu'elle est incapable de neutraliser les FDLR, les Mai Mai et les autres groupes armés encore actifs qui sèment la terreur et tuent la population congolaise du jour au lendemain ?» Pepe Lisungi Botomoito de Kisangani en province orientale, « J'apprécie le discours du président qui est bon, mais je souhaite qu'il soit aussi bon dans la matérialisation, aussi dans son discours, il n'a pas fait allusion même à un programme dans le cadre de la réforme et du développement de l'armée et la police, ce qui constituerait pour moi une crainte car ces deux services importants ont été oubliés par le chef de l'État dans son discours. Est-ce votre avis, professeur?
Oui, donc là, c'est vrai que, bon, d'abord, je salue évidemment un habitant de Butembo, hein, une ville où je vais donner cours régulièrement. Et c'est vrai que là, c'est un vrai problème. Le président, dans le début de son discours, dit que les habitants du Congo lui reconnaissent le mérite d'avoir rétabli la paix avec le pays et les États voisins, rectifier le territoire national, réhabiliter l'État. Oui, mais justement, dans certains endroits du pays, et notamment dans les Kivu, eh bien, on sait qu'il y a un très gros problème, justement, de stabilité, de paix, de réunification effective du territoire national. Et là, c'est vrai que les habitants aimeraient bien voir un peu, les applications de ces mesures-là. Le président fait comme si, d'une certaine manière, c'était résolu, mais en même temps, on se dit qu'il y a quand même un travail à faire là-dessus. Quand on espère, alors, pour répondre à la question de l'auditeur de Kisangani, ce que le président veut mettre en place sur le plan de l'armée, de la police, etc., de l'organisation, il n'y a pas effectivement de passage particulier là-dessus dans son texte actuel. Il signale généralement qu'il veut une gestion rigoureuse des finances publiques et une politique monétaire prudente avec l'amélioration du climat des affaires pour bien attirer les investisseurs. On voit que, d'une certaine manière, il dit dans le creuset d'excellence, la complaisance, la corruption et l'impunité sont à bannir, de même que dans tous les autres domaines de la vie nationale. Donc, d'une certaine manière, on voit bien que le président met beaucoup plus l'accent sur l'économie que sur le sécuritaire, comme si, effectivement, l'essentiel de la tâche, de ce point de vue-là, avait été réalisé, ce qui n'est quand même pas tout à fait faux, mais en même temps, en signalant que donc, l'accent doit être mis sur autre chose. Maintenant, les habitants du pays qui vivent dans des régions où l'insécurité est plus forte, les habitants du pays qui sont, estiment-ils, parfois soumis à des conduites un peu arbitraires de la part des forces de l'ordre, aimeraient bien effectivement qu'il y ait aussi une remise en ordre continuée, je dirais, des systèmes de maintien de l'ordre.
Merci. Maître Mbouyou, vous avez suivi Mme Akombo et les professeurs Virgence. Brève réaction.
Oui, d'abord pour Mme Akombo, j'apprécie son intervention. Je pense que c'est rare que sur Radio Okapi, il y ait des gens aussi équilibrés et qui ont une vision plus réaliste de leur pays. J'apprécie. J'ai néanmoins à dire sur le pourcentage des Congolais qui n'ont pas de travail. Des 94% de Congolais n'ont pas de travail. Non, c'est probablement une façon, je dirais moi, occidentale de voir les choses. Nous venons tous des campagnes électorales, on a été dans les villages et ailleurs. Les gens ont un travail. Probablement ce travail n'est pas, pris en compte dans l'évaluation nationale, mais ce travail permet à chacun de vivre, de nourrir sa famille, de participer à sa vie villageoise. Ce n'est peut-être pas un emploi où il va travailler pour quelqu'un rentre, mais il y a des milliers de paysans qui arrivent à vivre. Et c'est pour ça d'ailleurs que la population de notre pays croît assez vite. C'est parce que les gens travaillent, produisent, nourrissent leurs enfants et leur permettent de procréer. Donc, dire comme tel, évaluer à la manière d'une usine ou à l'occidental le pourcentage du travail au Congo, c'est une erreur. Il faut prendre le contexte congolais et africain d'ailleurs.
Il y avait tout un chantier emploi pour ça, Maître Mbouyou.
Oui, bien sûr, mais le chantier emploi, il faut le comprendre en relation avec les infrastructures. Ces chantiers emploi, il faut donner des facilités aux citoyens d'avoir de la communication, du déplacement, de la mutation d'endroit à l'autre pour que il se crée des emplois dans ces circuits-là. Cela ne veut pas dire qu'il faut construire des usines et inviter les gens à y travailler. D'ailleurs, la mécanisation aujourd'hui et l'informatisation font que très très peu d'emplois sont créés par de nouvelles activités. Donc, il faut permettre à chaque Congolais de pouvoir engager son effort, de produire, puisque nous avons 80% de la population comme étant des paysans, et donc on ne peut pas dire 94% de la population n'ont pas de travail, non. L'effort du président Joseph, c'est lequel ? C'est de pouvoir réaliser ces infrastructures de base pour permettre à chaque citoyen, par son travail, de pouvoir participer à l'effort national. Et je crois que cela est plus important que d'aller rechercher des créateurs d'emplois et des prometteurs de création d'emplois qu'on ne trouve finalement jamais. J'allais également réagir sur la question du pourcentage dévolu à la santé et à l'éducation pour dire que ce n'est pas 2%, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 7% pour la santé, 7,8% pour l'éducation, avec cette ambition d'aller autour de 20%. Et là aussi, je crois que c'est progressif et ce n'est pas négligé. Pour le reste, pour l'analyse qui a été faite par le professeur...
Le professeur dit que le président n'a pas mis l'accent sur la sécurité. En d'autres termes, c'est un peu du passé, mais il y a encore des endroits où l'insécurité bat son plein.
Oui, je pense que le chef de l'État a eu raison de ne pas cristalliser le discours sur la sécurité. Le pays est en train la paix est en train de se rétablir dans le pays. Il y a effectivement des poches encore d'attaques, d'FDLR et autres, mais ceci est tout à fait minorisable par rapport à ce que nous vivions il y a quelques années. Et du reste, depuis 1960, ce qui est à observer, c'est que on n'a pas eu un seul moment où ces poches n'ont pas existé. Ces poches ont toujours existé, mais souvent confinées dans des endroits où ils deviennent inopérants, comme cela du reste arrive dans beaucoup de pays dans le monde. Et donc, l'insistance doit être porté sur l'économie, parce qu'il faut produire la richesse. Et si on produit la richesse, on occupe les citoyens congolais. En ce moment-là, peu à peu, même ceux qui sont jonchés dans des couloirs de la guerre pourront venir peu à peu à la vie. Donc je crois que c'est avec raison et pertinence que le chef de l'État a dû insister dans ce discours sur les questions économiques.
Un autre aspect important du discours du chef de l'État, c'est son engagement à poursuivre la modernisation du pays. Joseph Kabila se dit également disposé à travailler avec les Congolais et pris de patriotisme pour un Congo émergent. On l'écoute.
Nous allons de même poursuivre et accélérer la reconstruction du pays à travers le programme des 5 chantiers, avec comme priorité reconfirmée la construction des infrastructures de communication. Sans infrastructures efficaces, la lutte contre la pauvreté est vouée à l'échec. Nous allons aussi améliorer l'aménagement et l'équipement du territoire national. Dans le sens d'une meilleure connexion entre ces différentes composantes, un meilleur cadre de vie pour nos populations, tant urbaines que rurales. Par ailleurs, les villages, aujourd'hui dépourvus de tout, seront encouragés à se regrouper de manière à permettre leur modernisation, ainsi qu'une meilleure fourniture de services de base. Chef de l'État, je suis le garant constitutionnel du bon fonctionnement des institutions. Président de tous les Congolais, je reste fidèle à mon ouverture d'esprit traditionnel. Je suis convaincu qu'ensemble, déterminés et motivés, nous ne pouvons que relever le défi de l'émergence de notre pays. Je travaillerai donc avec tous les compatriotes qui ont la passion du Congo et qui veulent sincèrement œuvrer à sa modernisation. Parce qu'au service de la patrie, il n'y a point de camp politique. Seul compte la compétence, le patriotisme et la bonne volonté.
Madame Angèle Makombo, vous êtes de l'opposition. Le président Kabila se dit disposé à travailler avec tous les Congolais pris de patriotisme pour un Congo émergent. L'opposition peut-elle saisir cette occasion?
Bien sûr. Je voudrais d'abord dire que l'opposition a commis beaucoup, beaucoup d'impairs. D'abord avant l'élection. N'avoir pas réussi à dégager un candidat commun et même après l'élection, n'avoir pas pu dégager une position commune quant à l'élection. Et les résultats sont tombés, les résultats officiels. Alors aujourd'hui, La fin d'une élection, c'est vraiment un moment aussi pour faire un bilan, aussi bien bilan du gagnant que des perdants. Et le président Kabila peut bien voir que 51% des Congolais n'ont pas voté pour lui. C'est la majorité et on ne peut que noter avec satisfaction son intention de travailler avec tous les Congolais parce que c'est le président, comme il dit, de tous les Congolais. Il a cette ambition de rassembler et ça ne peut qu'être salué. Et je voudrais dire que dans après cette bataille de la présidentielle, le souci de chaque leader politique doit être le peuple congolais, nos populations qui souffrent énormément. Ça devient vraiment insoutenable. Et se demander comment chacun peut, chacun à sa place, essayer d'améliorer le sort des Congolais. Moi, c'est vraiment ce qui me préoccupe à tous les instants. Et c'est à voir comment les choses vont se développer. Mais il faut absolument que l'opposition tire les leçons de son action pendant toute cette période et pré-électorale, pendant l'élection et après, et voir comment elle peut jouer un rôle, avoir un rôle de critique constructive, mais aussi un rôle de proposition et un rôle pour vraiment, comme je le disais, contribuer vraiment à améliorer le sort des Congolais.
Professeur Pierre Virgence, juste signaler d'abord qu'il nous reste moins de 8 minutes pour terminer cette émission. Je vous demanderai des réponses brèves. Professeur Pierre Virgence, le président Kabila s'est dit ouvert à travailler avec tous les Congolais. Madame Makombo regrette un peu le fait que l'opposition n'ait pas dégagé avant un candidat commun et après une position commune. Quelle est votre analyse à ce niveau?
Ça, c'est clair qu'on voit bien que la difficulté qu'ont eu les grands leaders potentiels avant l'élection de trouver un accord entre eux pour désigner l'un d'entre eux potentiel, avec éventuellement une répartition des positions de pouvoir dans un gouvernement éventuel futur après l'élection, ben, cette difficulté-là est peut-être liée aussi à la difficulté de négocier avec, je dirais, celui qui est le grand perdant, d'une certaine manière, de l'élection. Il n'est pas impossible, effectivement, que ce qui faisait la qualité de résistance de M. Étienne Tshisekedi à l'époque de Mobutu, c'est-à-dire son courage et son entêtement, fasse aussi, d'une certaine manière, sa difficulté à trouver une majorité autour de lui, parce que peut-être justement son courage et son obstination font qu'il n'imagine pas de faire des concessions à d'autres gens autour de lui. Et peut-être effectivement que l'échec de l'opposition de trouver un candidat qui fasse le poids face au président sortant, et on sait que pour faire face à un président sortant, il faut des candidats de poids, eh bien, la difficulté vient peut-être aussi effectivement de l'obstination et de l'entêtement d'au moins une des parties. Donc ça, c'est une analyse, je dirais, momentanée, conjoncturelle. On verra effectivement comment les gens qui se sont retrouvés dans la figure de l'opposant traditionnel du Congo vont se comporter dans les semaines et les mois à venir et comment ils vont accepter ou non et avec quelles difficultés le régime en place et l'affirmation de la présidence de la République actuelle. Merci. Et ça, effectivement, c'est un enjeu formidable pour le Congo.
Pour sa part, Josué Mukendi, l'un des candidats malheureux, pense que le plus important reste pour la population l'amélioration des conditions de vie et la paix sociale en général et demande par conséquent au président élu de trouver un compromis pour éviter la contestation de la gouvernance et des institutions politiques. Josué Mukendi, joint par Blaise Makassi.
L'instauration des élections libres et transparentes, ce n'est pas ça qui donne la garantie de la paix sociale. Mais ce qu'il faut maintenant, que ce qui s'est passé soit appuyé par des institutions stables politiquement, économiquement, pour donner la paix sociale, donner du travail à notre population qui continue à s'accroître et arriver au bien-être de la population en général. Alors pour arriver à cela, comme les produits des élections n'étaient pas consommables par tous, il faut qu'on arrive à un compromis, compromis avec les acteurs politiques, pour trouver un modus vivendi, pour trouver un modus operandi qui puisse garantir qu'il y ait la stabilité de ces institutions. Ce qu'il faut maintenant, il faut aller vers un compromis avec tous les acteurs politiques, les impliquer pour qu'il n'y ait pas de contestation ni des institutions ni de la gouvernance.
Maître Mbouyou, votre réaction, il faut un compromis autour de la classe politique.
Nous sommes toujours dans ce dilemme perpétuel entre l'exercice de la démocratie occidentale, donc libérale, et je dirais même une donnée de la civilisation africaine qui est cette recherche perpétuelle de conciliation, de réconciliation entre personnes vivant en société. Il y a tout de même une contradiction dans cette réalité-là. Dans la démocratie occidentale, qui nous est d'une manière ou d'une autre imposée, c'est que celui qui gagne les élections, c'est celui-là qui met en place son gouvernement, il met en place ses hommes, et avec ceux-là, ils appliquent la politique qui a été approuvée par la population, donc pour lesquels on les a élus. Les autres restent en opposition, et par le fait de leur interférence sur la gestion, ils contribuent à améliorer et à limiter les erreurs de ceux qui sont au pouvoir. D'un autre côté, nous avons une volonté qui dit, voilà, même s'il y a eu un gagnant et un perdant, tous on est là pour travailler ensemble. Je note dans le discours du chef de l'État, justement, aussi cette ambivalence. Il dit, ok, on a gagné, voici le plan, on va aller de l'avant, néanmoins, je reste ouvert. Et puisque cette recherche d'ouverture est partagée de part et d'autre, je ne peux que m'y insérer en disant, cette ouverture est voulu par les acteurs politiques congolais. Les modalités ne sont pas connues, mais je pense que dans un avenir proche, comme a dit le professeur Vigie, il va y avoir probablement des mécanismes plus concrets et cela nous permettra de voir où cela peut arriver. Il est impossible pour le moment de commencer à spéculer là-dessus.
Il faut déjà conclure, Maître Mbouyou, un mot en guise de conclusion.
Oui, merci cher ami pour cette invitation. Le discours du chef de l'État a apporté des choses qui sont fondamentales pour le lendemain des Congolais, c'est-à-dire continuer les 5 chantiers, apporter une dimension nouvelle en associant tout le monde à la décision, notamment la décision économique, et permettre à ce que tous les Congolais qui le veulent participent à la prospérité, à la croissance du Congo sans exclusive.
Madame Angèle Makombo, votre conclusion également.
Il y a urgence à travailler sur le social. Comme je l'ai dit en début d'émission, le président a dit qu'il a reçu 5 sur 5 le message sur la demande sociale. Donc, nous attendons de voir comment ça va être réalisé. Deuxième chose, il a parlé de révolution de la modernité. Et là, je voudrais insister que cette modernité, cette révolution de la modernité, nous ne pourrons l'atteindre que si nous acceptons aussi le choc des idées dans notre pays. On n'a pas Merci. Besoin d'avoir une idée unique, monolithique. Du choc des idées jaillit la lumière. Donc je pense que nous pourrons tous en bénéficier et
Merci.
Le pouvoir et l'opposition travailler pour l'amélioration du sort du peuple congolais.
Professeur Virgence, juste un mot pour conclure.
Un mot, c'est que on a remarqué que le président n'a pas pris un ton courroucé et sécuritaire pour menacer les gens qui voudraient vendredi éventuellement marquer leur hésitation, leur doute, voire leur indignation vis-à-vis de la façon dont les résultats ont été additionnés. Il a au contraire marqué son ouverture d'esprit et sa volonté de travailler avec tout le monde. C'est, espérons-le, un bon signe pour l'avenir du Congo.
Merci. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. À demain, même heure, même chaîne. Au revoir.